9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Demain, quel sera le monde d'après ? Et d'abord, quelle sera l'ampleur et les conséquences du choc économique que nous sommes en train de subir ? Mon premier invité sera Jean Tirole, le prix Nobel d'économie 2014. Demain, quelle stratégie thérapeutique contre le Covid-19 ? Laurent Lagros, directeur de recherche à l'INSERM, est l'un des premiers en France à avoir sonné l'alerte début mars sur le danger de ce virus et le risque d'une pandémie. Il veut appeler la communauté médicale à explorer la piste du BCG, le vaccin contre la tuberculose, qui pourrait doper nos défenses immunitaires contre le Covid-19. Enfin, demain, que seront nos libertés individuelles ? Je serai en ligne avec le vice-président du Conseil d'État, Bruno Lasserre, Conseil d'État qui joue un rôle central dans cet état d'urgence sanitaire. Il peut être saisi par n'importe quel citoyen. Et le Conseil d'État vient de rejeter une demande d'autorisation de l'hydroxychloroquine. Voilà le programme.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Jean Tirole.
Oui, bonjour Patrick Cohen.
Président honoraire de l'École d'économie de Toulouse, prix Nobel d'économie 2014. Jean Tirole, nous subissons une exceptionnelle double crise sanitaire et économique. La première est en cours, nous la vivons dramatiquement. Pour la deuxième, c'est un saut dans l'inconnu, mais nous savons déjà que le choc économique du confinement sera monstrueux. Mais avant tout, dites-nous d'abord quelles sont les premières leçons que vous tirez de cette catastrophe qui semble avoir complètement pris au dépourvu la plupart des pays européens.
Oui, effectivement, nous avons été un peu pris au dépourvu, contrairement aux pays de l'Asie du Sud-Est, je pense à Taïwan ou à Singapour ou à la Corée du Sud. Nous ne sommes pas vraiment préparés, alors je parle de tout l'Occident ici, nous ne sommes pas préparés à cette épidémie malgré les signes précurseurs. Il y a eu quand même H1N1, il y a eu SRAS, il y a eu d'autres cas, et puis il y a évidemment les risques permanents qui sont la guerre biologique, qui sont la fonte du permafrost, etc. Donc, c'est quelque chose auquel on aurait dû mieux se préparer globalement, et puis ne pas être dans le déni. Effectivement, il y a certains pays qui ont été dans le déni, et maintenant nous avons la vague. Maintenant, ce sont des événements extrêmement rares. C'est sûr qu'on peut pas être parfaitement préparé. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité pour face à cette situation, à la fois sanitaire et économique, comme vous l'avez dit, et essayer de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer demain.
Oui, mais il y a un effet du court-termisme des politiques publiques, des vues trop courtes.
Oui, mais c'est un effet qui est tout à fait connu. Il existe dans beaucoup d'autres domaines. On le voit dans l'éducation en France, la recherche. On le voit dans le climat, qui est l'exemple le plus clair, où on attend depuis 30 ans sans faire.
Eh bien voilà, la liaison est interrompu avec.
Parce que, évidemment, bon, les politiques eux-mêmes sont contraints par les élections. Et donc, c'est un peu automatique. Donc, il va falloir que la population elle-même réfléchisse un petit peu à son modèle de consommation et de développement, face en particulier à des menaces sanitaires et climatiques qui sont vraiment, qui menacent son existence.
Ça veut dire aussi une révision de nos priorités peut-être, des politiques publiques qui investissent massivement dans la santé,
alors,
la recherche.
Oui, bien sûr, mais les politiques ne peuvent pas tout faire. C'est-à-dire que si on rejette par exemple leurs actions climatiques, si on dépense beaucoup pour la santé, qui coûte très cher aux dépenses... réélu. Donc il faut aussi une prise de conscience de la population elle-même, c'est-à-dire que nous devons tous faire quelque chose. On l'a dit souvent pour le climat, ce sont les individus, les entreprises, les administrations. On le voit dans la crise sanitaire. L'État peut interdire les rassemblements, peut faire avoir un certain nombre de politiques, mais il faut aussi que nous-mêmes, en tant que citoyens, respections les consignes.
Oui. Le choix du confinement, Jean Tirole, et de mettre à l'arrêt tout ce qui n'est pas essentiel, c'est le choix de protéger des vies plutôt que l'économie. Cela nous paraît évident, naturel, mais on a vu les réticences de Boris Johnson en Grande-Bretagne, les refus encore aujourd'hui de Trump et de Bolsonaro aux États-Unis et au Brésil, qui semblent considérer que les vies humaines valent moins que l'économie. Quelle réflexion ça vous inspire ?
Alors, je dirais bien sûr que les vies humaines ont une valeur importante et donc il faut faire ce qu'il faut pour éviter une perte trop importante de vies humaines. Il ne faut pas non plus totalement négliger l'économie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Il y a l'après-virus, donc comment ça va se passer. Je vous rappelle quand même que vous faites un petit calcul de coin de table, comme mes collègues de Toulouse, Christian Gollier et Stéphane Straub ont fait. Vous regardez combien de pertes de PIB résultent de, disons, 2 mois de confinement à moitié de travail, c'est-à-dire l'équivalent d'un mois, ça fait 8% du PIB quand même. Alors quand vous regardez d'autres projections qui disent que ça pourrait durer des mois, voire un an, vous voyez un petit peu la crise économique que ça pourrait poser, avec bien sûr la possibilité en Europe de crise des dettes souveraines, c'est-à-dire des dettes des États, qui pourraient plus se renouveler sur les marchés. Donc il y a ça, et puis il y a aussi la désobéissance, c'est le manque de respect des lois. C'est-à-dire que le confinement, ça peut durer pendant un certain temps, mais au bout d'un certain temps, les gens vont vouloir sortir. Et s'il y a une désobéissance civile, ça serait aussi très très grave pour la santé. Donc je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour éviter des décès, mais il faut pas qu'il y ait un open bar non plus. C'est-à-dire que par exemple, si vous envoyez un chèque à la population, à tout le monde dans la population, ça va pas. Vous dépensez de l'argent, vous ne ciblez pas assez les dépenses. Et je pense que le gouvernement...
Ça, c'est ce que Trump a prévu de faire, ce chèque de 1200 dollars adressé à chaque citoyen.
Exactement.
Américain. Ça
et
fait
je,
partie
je
du,
vois,
du
bon...
méga plan de relance voté cette semaine par le Congrès. Vous trouvez ça idiot?
C'est-à-dire que ça ne cible pas assez. Donc, les États-Unis sont dans une situation plus aisée parce qu'ils, d'une certaine manière, ils peuvent facilement relever l'impôt. L'impôt est extrêmement faible, surtout pour les riches aux États-Unis. C'est très très facile de relever l'impôt pour payer des dettes. En Europe du Sud, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va se trouver devant une situation d'après coronavirus où il faudra bien réfléchir à comment même financer tous les programmes qu'on va avoir, comment on va financer les indemnisations de particuliers, d'entreprises, de banques, de compagnies d'assurance. Donc, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'open bar.
Oui, ça veut dire que vous êtes favorable à une stratégie de reprise progressive du travail, par exemple en dépistant, avec un dépistage massif où on laisse retourner au travail et à l'activité des gens dont l'immunité a été prouvée
oui,
par,
c'est-à-dire,
par
absolument,
un test.
Ça c'est l'autre volet, c'est-à-dire qu'il faut, effectivement, j'ai des collègues à l'Université libre de Bruxelles qui ont proposé de faire systématiquement un double test. Donc effectivement un test qui regarde la présence d'anticorps et puis la détection du coronavirus, et ceux qui ont développé des anticorps et qui ne sont pas porteurs peuvent retourner au travail immédiatement pour éviter de perdre trop d'output et créer une dette publique trop élevée. De façon générale, c'est très important. Je pense qu'il n'y a pas que l'économie, il y a aussi l'éducation, par exemple. Imaginez que pendant 6 mois, il n'y ait plus d'école et plus d'université. Alors, dans le court terme, c'est pas grave, à part que les conséquences à long terme sont très élevées, parce qu'effectivement, on perd du savoir, on perd des compétences, mais dans 20 ans. Donc, je pense que...
Et on aggrave les inégalités aussi.
Il faut essayer de mettre en œuvre une politique qui ramène les gens au travail de façon compatible, bien sûr, avec la santé publique, mais aussi vite que possible.
Jean Tirole, on marque une pause avant de poursuivre avec vous. Une nouvelle qui vient de nous parvenir à propos de ce Covid-19, c'est la mort d'un homme politique, Patrick Devedjian, l'ancien maire d'Antony, député des Hauts-de-Seine, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. On apprend qu'on savait qu'il était malade du Covid-19. On vient d'apprendre à l'instant son décès des suites de cette maladie. Jean Tirole, on vous retrouve dans un instant. On parle des conséquences du choc économique que nous subissons, des scénarios de l'après-Covid-19. A tout de suite.
Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen pour C'est arrivé demain sur Europe 1.
Avec le prix Nobel d'économie Jean Tirole à propos d'une crise sanitaire qui sera aussi un choc économique de première ampleur. L'INSEE a déjà calculé que le confinement a fait chuter d'un tiers l'activité économique, production et consommation, et que chaque mois de confinement représente une perte de 3 points de PIB annuel. Vous nous disiez plutôt 4 points par mois, d'après vos calculs à l'école d'économie de Toulouse. Hein, c'est cela, Jean Tirole. En tout cas, c'est vertigineux et sans précédent. Qu'est-ce que ça signifie à la fin? Récession, chômage et perte de pouvoir d'achat?
Alors d'abord, bon, les calculs sont vraiment à la louche, hein, il faut bien se rendre compte, c'est très très difficile, on n'a pas de statistiques, et puis il faut prévoir combien de temps cette crise sanitaire durera, donc c'est quasiment impossible, mais enfin, une chose est claire, c'est que les chiffres vont être extrêmement élevés, donc ça veut dire plus de chômage, ça veut dire beaucoup moins de pouvoir d'achat, ça il faut quand même réaliser que ça va nous coûter très cher. Et donc la question, c'est celui de l'après-crise qui entrera dans la crise économique à ce moment-là. Donc des plans de relance, bien sûr, alors ça c'est déjà prévu. Et je crois que la BCE, justement, a fait du très bon travail en soutenant les États, les banques. Et après, il y a le plan de relance budgétaire qui devra un peu cibler quand même les entreprises qui en ont besoin. Les PME, bien sûr, parce qu'elles sont plus fragiles financièrement. Et puis elles sont moins diversifiées aussi, donc ça va être un défi pour nous tous d'essayer de garder l'activité économique. Mais maintenant, il faudra aussi faire un sacrifice, et ça pose la question de comment tout ça va être financé.
Oui, comment financer ? Oui, c'est-à-dire la dette publique va forcément exploser. C'est un sujet ou c'est soutenable, Jean Tirole ?
Ah ben c'est un sujet. Disons que dans la sortie de crise, il y aura trois ou quatre solutions. Donc la première solution, ça serait effectivement des impôts exceptionnels qui touchent pas seulement les riches, mais aussi la classe moyenne. Si on veut lever suffisamment d'argent, c'est difficile. On est déjà dans un pays où il y a des prélèvements très très importants, mais on le fera, je pense, c'est bien sûr. Répudier la dette, ça me semble totalement hors de propos. C'est-à-dire répudier la dette, c'est dire qu'on ne va pas la payer, ou en termes pudiques, on va la restructurer. Ça veut dire qu'on n'aurait plus du tout confiance dans la France, et ça veut dire que la France serait immédiatement exclue des marchés financiers. Donc elle pourrait même pas renouveler sa dette existante. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'elle serait en équilibre budgétaire immédiat à un moment où il y aurait des dépenses très importantes à faire. Troisième solution, c'est un peu ce qui se passe actuellement, ça a commencé, la monétisation de la dette, c'est-à-dire que la BCE émet des liquidités et rachète de la dette d'État et de la dette des banques. Donc ça, c'est une possibilité qui mutualise un petit peu au sein de l'Europe, bien sûr le coût de la crise. Et ce qui est très impressionnant justement à la BCE, c'est qu'il y a eu quand même un consensus pour le faire, qu'on ne voit pas du tout au niveau des États, c'est-à-dire au niveau des budgets.
Non, ben non, l'Allemagne s'oppose à la mutualisation des dettes européennes à travers les corona bonds,
oui,
obligations dont l'idée est soutenue par la France. Hein. C'est dommage.
Alors, il y a deux choses. Hein. Donc la première, c'est que l'Allemagne s'y oppose au niveau des budgets, mais pas au niveau de la BCE. Hein. Donc la BCE, en monétisant, effectivement, crée une certaine mutualisation. Maintenant, pour les autres formes de mutualisation, il y a le mécanisme européen de stabilité, mais qui est compliqué parce qu'il faut une unanimité des ministres des Finances.
Oui. Et c'est sous condition.
C'est-à-dire des prêts aux États, et c'est très très compliqué. L'État français, avec huit autres pays, a proposé d'émettre des obligations, non pas d'État, mais européennes, solidaires, ce qu'on appelle les Corona Bonds, qui est un peu une version des Eurobonds dont on avait parlé au niveau de la crise financière de 2008, qui n'ont pas vu le jour. Et ils n'ont pas vu le jour pour une bonne raison, c'est-à-dire que les intérêts de l'Europe du Nord ne sont pas ceux de l'Europe du Sud. C'est-à-dire que nous, on a intérêt, évidemment, aux Corona Bonds. L'Europe du Sud est très endettée, et effectivement, il y a le danger d'avoir une crise souveraine, c'est-à-dire que les marchés financiers ne veulent plus prêter, par exemple, à l'Italie. Parce que l'Italie est déjà endettée à 135-140%, l'Allemagne est endettée à moins de 60%, et donc il faut comprendre que la mutualisation va dans le sens d'aider les pays du Sud au détriment des pays du Nord. On a laissé développer des asymétries très importantes depuis 2008, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Et du coup, l'Europe du Nord n'a pas tellement intérêt à entrer dans un système de Corona Bonds. Ceci dit, l'Europe du Nord pâtirait évidemment d'une crise de l'Italie, de la France, de l'Espagne, de la Belgique, etc. Et pour l'instant, je pense que ce qui va se passer, c'est comme en 2008, c'est essentiellement la Banque centrale qui va sauver les États plutôt que les budgets des États eux-mêmes.
Pour finir, Jean Tirole, et pour l'avenir, Comment imaginez-vous le monde de demain? Est-ce que vous l'imaginez avec un changement de modèle, un changement de société? Est-ce que vous espérez que cette crise va réveiller des réflexes de solidarité, de coopération dans nos sociétés?
Alors oui, il y a toujours, après une guerre, il y a toujours un plus d'empathie, plus de participation aux groupes sociaux, plus d'empathie surtout vis-à-vis de son propre groupe, il faut bien le dire, mais on espère quand même que ça va mieux se passer. Il faut, comme on le disait tout à l'heure, avoir moins de court-termisme, c'est-à-dire une vision à courte vue, envisager l'avenir plutôt que de consommer. Et d'ailleurs, on le voit dans tous les domaines. On le voit dans le climat, on le voit dans l'éducation, on le voit dans les dettes souveraines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo, si je puis m'exprimer ainsi. Il faut dépenser, il faut sauver l'économie, il faut protéger les particuliers qui sont fragiles. Personne n'est responsable du coronavirus. C'est une guerre contre un virus. Donc, il faut dépenser suffisamment. Et on s'est mis dans une situation en disant, mais là, vous savez, la dette, c'est pas grave. On s'est mis dans une situation où on pourrait avoir des difficultés. Et c'est un peu dommage. Donc, il faut arrêter de raisonner à court terme et il faut arriver. Mais pour ça, les politiques ont besoin aussi de l'appui des populations. On le voit avec le climat, comme je le disais tout à l'heure. Si la population ne veut pas de tarification du carbone, par exemple, c'est très difficile de la mettre en œuvre. Il va falloir un changement des mentalités. La globalisation, on entend dire, ben non, il faut plus de globalisation. Ça, c'est un petit peu une erreur. Ou alors, il faut dire, attention, en plus du choc que vous allez subir en termes de pouvoir d'achat, vous allez aussi subir un second choc, c'est-à-dire que vous allez payer vos biens de consommation beaucoup plus cher. Or, la demande des gilets jaunes et d'autres, c'est vraiment pour plus de pouvoir d'achat.
Bien sûr, tout ça est contradictoire. Merci beaucoup Jean Tirole de nous avoir accordé cet entretien et pardon pour les brèves coupures de liaison qui l'ont émaillé. Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, le chercheur Laurent Lagro, il va nous expliquer ce qui l'a conduit à sonner l'alerte sur le danger qui menaçait la France dès le début du mois de mars et pourquoi il juge très intéressante la piste du BCG, le vaccin contre la tuberculose.
Comme chaque dimanche, on vous retrouve Patrick Cohen, mais de chez vous, bien sûr, pendant cette période, pour C'est arrivé demain.
Bonjour Laurent Lagro.
Bonjour Patrick Cohen, bonjour.
Directeur de recherche à l'INSERM, vous avez été avec le professeur Didier Payen, l'ancien chef du service anesthésie-réanimation de la Riboisière, parmi les premiers en France à sonner l'alerte au début du mois. Ce Covid-19 est un réel danger. Papier paru dans le quotidien du médecin le 6 mars, au moment où la plupart des médecins dédramatisaient cette petite grippe. Vous expliquiez, vous, que la mise en quarantaine de la population française serait incontournable. On va reparler tout à l'heure de cet article, mais ce matin, vous voulez alerter la communauté scientifique et médicale sur une piste thérapeutique qui vous paraît très intéressante et fait l'objet d'un essai aux Pays-Bas. C'est le vieux BCG, le vaccin contre la tuberculose. Sur quoi se fonde votre raisonnement ?
Eh bien, le professeur Didier Payen et moi-même travaillons ensemble main dans la main depuis maintenant près de 3 mois sur cette Covid-19. Didier se trouve être un des spécialistes experts internationaux de ce qu'on appelle la réponse inflammatoire de l'hôte, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire notre capacité et celle de notre système immunitaire à répondre vis-à-vis d'une agression par un agent pathogène, en l'occurrence le virus SARS-CoV-2. Et nous sommes convaincus, lui et moi, que cette composante inflammatoire est très importante à considérer. Elle est à la fois essentielle puisqu'elle permet de contrer et d'éliminer le virus, et elle peut être redoutable, puisque lorsqu'elle est exacerbée, qu'elle devient incontrôlée, elle est malheureusement à l'origine des formes les plus sévères et les plus critiques de la maladie.
Oui, parce que souvent, souvent dans le Covid-19, c'est la réponse inflammatoire, c'est la surchauffe de nos défenses immunitaires qui tue, qui provoque la mort, hein.
Absolument, oui. C'est une réponse incontrôlée de notre organisme, qui est quelque chose qui est assez connu, notamment dans le cadre du choc septique, puisque ce sont les propres défenses incontrôlées qui vont être à l'origine effectivement des formes les plus sévères.
Alors, et donc le BCG pourrait doper notre système immunitaire, c'est ça votre raisonnement ?
Absolument, oui. Alors à travers un type d'immunité qui se fait jour actuellement et ceci depuis quelques années seulement, vous savez qu'il y a l'immunité acquise et l'immunité innée. Et vient d'émerger très récemment le concept, ce troisième concept finalement d'immunité, qui est l'immunité entraînée, training immunity, trained immunity, où finalement notre système immunitaire inné peut être prévenu et s'adapter de manière à lutter contre les formes les plus sévères des maladies infectieuses, et dont nous pensons que ça puisse être le cas effectivement pour la maladie Covid-19.
Votre hypothèse, Laurent Lagros, s'appuie aussi sur des observations encore inexpliquées sur les profils des malades, et notamment en Italie.
Oui, absolument. Il y a, en fait, si ce n'est actuellement un faisceau de preuves, nous n'en sommes pas encore là. Il y a notamment un faisceau, effectivement, d'arguments. On peut reprendre, effectivement, cet exemple italien où... Nous consultons régulièrement les réseaux sociaux italiens et nous avons la surprise de lire récemment un commentaire indiquant que en Italie, les ressortissants qui viennent hors de l'Union européenne et qui rejoignent la Lombardie, qui ont reçu une couverture vaccinale contre la tuberculose à l'entrée sur le territoire, semblent ne pas développer les formes sévères de la maladie Covid-19. Ils ont des syndromes grippaux lorsqu'ils sont infectés par le SARS-CoV-2, mais ils n'ont pas de forme sévère ou critique de la Covid-19. C'est évidemment une observation qui mérite d'être confirmée, vérifiée en Italie, comme dans notre pays d'ailleurs.
Et puis, il faut parler des enfants aussi, des enfants, des adolescents qui sont peu ou très peu touchés par le Covid-19, et c'est encore une énigme pour les scientifiques.
Absolument. C'est une énigme, en effet. C'était très tôt remarqué, c'était observé initialement en Chine, et le même type d'observation, effectivement, est observé dans notre pays aujourd'hui. La vaccination BCG contre la tuberculose est effectivement administrée aux enfants dans la plupart des pays du monde, et elle confère une mémoire au système immunitaire qui perdure entre 15 à 20 ans. Donc est-ce que ça ne pourrait pas expliquer le fait que les enfants sont protégés du fait de leur vaccination, alors que nos aînés, qui eux ont été parfois immunisés il y a plus, pour certains, de 40 années, peut-être que eux pourraient développer effectivement des formes sévères de la maladie et de ce fameux boost inflammatoire exacerbé et incontrôlé.
Même si le BCG n'est plus obligatoire en France depuis 2007, mais c'est un vaccin qui reste largement pratiqué, répandu. Donc il y a une corrélation qui reste à établir entre la prévalence de la tuberculose dans certains pays, la vaccination par le BCG et des formes atténuées de Covid-19. On rappelle que ce n'est qu'une hypothèse pour l'instant, qui est donc explorée par des essais cliniques qui viennent de démarrer aux Pays-Bas. Mais vous voulez appeler, Laurent Lagros, les praticiens, les soignants en France à vérifier dans le dossier médical des patients si ce lien existe ou non ?
Absolument. Mais juste avant d'en venir là, rappeler peut-être un troisième élément qui me semble tout à fait essentiel, et il nous est apparu comme tel à Didier Payen et moi-même, c'est la disparité géographique de la Covid-19 et surtout de sa gravité. Et si on s'intéresse aux cartes telles qu'elles sont produites par l'université Johns Hopkins aux États-Unis et qu'on compare cette carte au nouveau cas de tuberculose à travers le monde, on voit qu'il y a une certaine concordance. Et si on prend l'exemple de l'Afrique et l'Afrique du Sud en particulier, les dernières données dont nous disposons indiquent que les formes les plus sévères de la Covid-19 sont très peu fréquentes dans les townships où il y a une incidence élevée de la tuberculose. Donc pour revenir maintenant à notre appel, effectivement, oui. nous souhaitons lancer un appel à la communauté scientifique et médicale de notre pays pour qu'elle se saisisse de cette hypothèse simple que nous donnons aujourd'hui et qu'elle puisse l'explorer à travers un questionnement finalement assez simple et basique. Par exemple, quel est l'état de la couverture vaccinale BCG parmi les patients qui sont aujourd'hui admis pour des formes sévères et critiques dans nos services de réanimation? Est-ce qu'une intradermoréaction positive serait un bon pronostic chez les patients qui sont encore asymptomatiques? Et la mémoire immunitaire BCG pourrait-elle constituer finalement une piste raisonnable pour soutenir et protéger nos personnels soignants? Voilà, autant de questions qui restent ouvertes aujourd'hui et qui méritent une attention, nous semble-t-il.
Appel lancé donc ce matin sur Europe 1. Laurent Lagro, directeur de recherche à l'INSERM. Vous restez avec nous, vous allez nous dire ce qui vous a conduit à dire attention danger et à appeler au confinement début mars dans un article précurseur au moment où la plupart des médecins parlaient d'une grippette. A tout de suite.
Europe 1, c'est arrivé demain. Continue avec vous Patrick Cohen.
Avec Laurent Lagro, directeur de recherche à l'INSERM et auteur avec le professeur Didier Payen d'un papier précurseur dans le quotidien du médecin du 6 mars. Alors que l'épidémie venait de se déclarer en Italie, nous sommes très préoccupés. Le Covid-19 est un réel danger, écriviez-vous. Alors c'est intéressant de refaire le film aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette alerte? C'est l'apparition quelques jours plus tôt des premières données chinoises dans les revues scientifiques?
Oui, absolument. Nous fûmes interpellés très tôt par les formes sévères de la maladie telles qu'elles étaient d'ores et déjà rapportées dans des journaux internationaux tels que le Lancet, où dès la mi-janvier, on savait que cette maladie pouvait présenter des formes extrêmement sévères et critiques, avec des images notamment de lésions pulmonaires, avec une fibrose envahissante et bilatérale. Donc nous avions compris effectivement que cette maladie était relativement grave pour une partie de la population seulement, effectivement, mais relativement grave néanmoins. Donc nous avons souhaiter lancer l'alerte, mais à ce stade, il nous fallait des données, des vraies données scientifiques et médicales qui, effectivement, comme vous l'indiquez, ont été délivrées dans les grands journaux internationaux scientifiques et médicaux à la fin février. Et à cette date, après avoir pris connaissance de ces données et avoir ensemble réfléchi à leur portée, nous avons effectivement décidé de produire cet article de manière à faire le bilan des connaissances qui étaient disponibles début mars et effectivement à alerter.
Il y avait dans les données chinoises des paramètres qui étaient plutôt rassurants, un taux de mortalité relativement faible, mais aussi et surtout une contagiosité très élevée. C'est cette combinaison qui vous a fait penser que ce virus pouvait être très dangereux.
Oui, en partie, pour revenir sur cette notion du taux de mortalité relativement faible, je pense important d'insister sur cet adverbe relativement, puisque les premières données chinoises, effectivement, indiquaient quand même que dans 15 à 20% des cas, il y avait effectivement des formes sévères à critiques, ce qui était, à notre sens et à nos yeux, loin d'être négligeable. Effectivement, se forger une idée telle que nous la sommes forgée requiert de considérer dans leur ensemble les différents paramètres, les différents éléments qu'il faut intégrer et analyser de manière synergique. Le taux de mortalité, comme vous venez de l'évoquer à l'instant, bien sûr, mais la fréquence des formes sévères et critiques, comme je l'ai souligné, la contagiosité est importante, la viabilité du virus sur les surfaces à l'extérieur, la durée d'incubation également est un paramètre très important, et enfin, les caractéristiques et les spécificités de la maladie Covid-19, qui, je le rappelle, est une maladie nouvelle, dont on connaît encore relativement peu de choses et d'ailleurs l'actualité quotidienne nous montre effectivement que nous découvrons et en connaissons un peu plus sur cette maladie chaque jour.
Alors le 6 mars, Laurent Lagro, la France est très loin d'imaginer ce qu'il attend. On ne compte à ce moment-là que 6 morts et la plupart des cas français ont une origine identifiée. Pourtant, dans votre papier, tout y est. L'épidémie qui arrive, le besoin de masques, la mise en quarantaine de la population qui vous apparaît incontournable. Je rappelle que le confinement a été décidé nationalement le 16 mars. À vos yeux, on a perdu 10 jours ?
Je pense que pour l'heure, ce qui a été fait, ne convient pas et nous ne souhaitons pas, mon ami Didier Payen et moi-même, faire le bilan des errances qu'il y a pu y avoir, qui ont pu avoir lieu dans différents pays et peut-être dans le nôtre. C'est, je dirais, inutile et stérile à ce stade. Notre volonté, c'est bien d'aller de l'avant, essayer de continuer à travailler ensemble pour comprendre et intégrer la littérature scientifique et médicale qui est de plus en plus copieuse d'ailleurs et essayer d'en tirer des enseignements de manière à apporter des suggestions qui vont pouvoir aider, je dirais, à bien réfléchir sur cette maladie qui est à nouveau une maladie nouvelle. Ouais.
Alors, puisque c'est parti de là, que nous apprend l'expérience chinoise et notamment quelqu'un que vous avez beaucoup écouté, ce médecin français resté à Wuhan, le docteur Philippe Klein?
Oui, nous avons eu plusieurs opportunités, et je dirais plusieurs chances, qui se sont finalement cumulées. Alors, le terme de chance paraît un peu décalé par rapport au drame que nous vivons aujourd'hui. Néanmoins, je rappelle que la crise a débuté en Chine bien avant que le virus ne se propage en direction des pays plus à l'est. Et effectivement, le docteur Philippe Klein, qui était chef de service à Wuhan pendant toute la gestion de la crise dans la région de Lubaï, a apporté un témoignage très intéressant et a même fait des recommandations à notre pays en ce qui concerne notamment le confinement total et le dépistage des cas douteux. Et si on revient sur les publications scientifiques et médicales de la fin février, effectivement, elles contiennent d'ores et déjà des données extrêmement précieuses concernant cette maladie et les difficultés effectivement majeures qu'elle porte. Il y a eu d'autres expériences également un peu plus tard. Je parlerai brièvement des expériences de l'Asie du Sud-Est notamment. Nous avons tous en tête ces informations venant de Singapour et de la Corée du Sud, où une stratégie un peu différente a été appliquée en termes de confinement, qu'on pourrait qualifier de plus léger, et un dépistage sur une large échelle avec cette fameuse méthode des drive-in dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mmh. Enfin, dernier exemple, celui de l'Italie, de nos frères italiens qui ont été touchés 10 jours plus tôt que nous, avec des difficultés effectivement, et qui sont bien sûr d'actualité dramatique aujourd'hui, mais avec des expériences qui sont riches d'enseignements. Je rappellerai que dans la ville de Codogno, qui compte 15 000 habitants en Lombardie, il y a eu un confinement qui a été conduit très tôt, qui était très fortement respecté par la population et qui a conduit à annuler le nombre de cas nouveaux depuis quelque temps déjà dans cette ville. Un autre exemple, et c'est un exemple très important, il a été mené en Italie en partenariat très étroit avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. C'est l'expérience du village de Vaux et Euganeo, qui est un petit village de 3000 habitants de la région de Vénétie, où le dépistage a été pratiqué systématiquement et de façon répétée au sein de la population et qui a donné des résultats extrêmement spectaculaires, puisque aujourd'hui, et à ma connaissance, depuis le 21 mars, c'est-à-dire depuis plus d'une semaine, il n'y a aucun cas nouveau de contamination dans ce petit village de Vaux et Euganeo en Italie.
Et sur le plan thérapeutique aussi, évidemment, la littérature est déjà riche parce que la Chine a déjà essayé beaucoup de choses, Laurent Lagros.
Oui, absolument. Alors, je n'ai peut-être pas en Chine à cette période et je ne dispose que des données pour l'instant fragmentaires dont disposent les scientifiques et les médecins, mais je me base sur, à nouveau, ce témoignage très précieux du docteur Philippe Klein, qui a rapporté effectivement que de nombreuses stratégies, notamment antivirales, avaient été tentées, testées en Chine au cœur de la crise sanitaire.
Merci beaucoup Laurent Lagros. Je rappelle que vos papiers avec Didier Payen sont en accès libre sur le site du Quotidien du Médecin et votre dernière tribune sur la piste du BCG dont on a parlé il y a quelques minutes est à lire dans les blogs de Mediapart. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, un homme et une institution au cœur de la crise, de l'état d'urgence sanitaire. Nous accueillerons le vice-président du Conseil d'État, Bruno Lasserre.
Europe 1. Patrick Cohen reste avec vous en cette période de confinement, en direct de chez lui pour cette arrivée demain.
Bonjour Bruno Lasserre.
Bonjour Patrick Cohen.
Vice-président du Conseil d'État, c'est-à-dire numéro un de cette institution, puisqu'il n'y a pas de président. Le Conseil d'État, c'est à la fois la plus haute juridiction administrative et le conseiller du gouvernement sur le plan réglementaire et législatif. Et en cette période de crise sans précédent et de mesures exceptionnelles, on vous saisit à tout bout de champ pour obliger le gouvernement à faire ce qu'il refuse de faire. Vous venez donc de vous prononcer sur des demandes de confinement total, de distribution de chloroquine ou de dépistage massif. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, comment travaillez-vous la collégialité, les réunions continuent malgré le confinement ?
Oui, nous avons déclenché ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité. Seuls ceux qui sont essentiels au fonctionnement de l'institution sont sur place. tous les autres télétravail, les membres du Conseil d'État, les agents qui se mobilisent de manière formidable. Les agents aussi qui s'occupent de l'informatique font un travail remarquable pour nous permettre de nous réunir par visioconférence, conférence téléphonique. Tout le monde est engagé, tout le monde est solidaire et assure notre métier qui est, y compris dans ces périodes difficiles, de protéger l'état de droit.
Ouais. Et je rappelle que depuis l'an dernier, les citoyens peuvent saisir directement le Conseil d'État et directement hein, via une application numérique. Vous êtes assaillis de demandes ?
Nous sommes assaillis de demandes. Nous en avons plus que d'habitude et notamment ce qu'on appelle des demandes urgentes de référés. Depuis 20 ans, la juridiction administrative, pas seulement le Conseil d'État, mais aussi les tribunaux administratifs en première instance, disposent de la possibilité en 48 heures, c'est très rapide, de prononcer des mesures qui sont nécessaires dans l'urgence pour protéger une liberté fondamentale qui pourrait être menacée, à laquelle une atteinte grave pourrait être portée. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons reçu environ 25 à 30 demandes urgentes autour de la crise sanitaire. Pour les autres affaires, eh bien, il y a plutôt moins de demandes qui nous sont adressées parce que tout simplement, voilà, les gens ont d'autres priorités et pensent à plus tard. Mais oui, il y a une mobilisation autour des affaires urgentes.
Ouais, et donc, ça vous conduit à siéger, y compris pendant le week-end. Le Conseil d'État, Bruno Lasserre, ces dernières années, s'est érigé en défenseur des libertés publiques et individuelles. Là, vous devez vous prononcer et parfois valider des restrictions sévères à ces libertés, à commencer par celle d'aller et venir, hein, qui n'est plus possible avec le confinement. Qu'est-ce qui fonde vos décisions ? Quels en sont les principes ?
Si vous voulez, dans une démocratie, les droits et libertés parfois s'entrechoquent, entrent en conflit. On est à la fois chacun de nous, individus et citoyens. En tant qu'individus, nous avons des droits, le droit d'aller et venir, le droit de se déplacer, le droit de se réunir avec d'autres personnes, de mener des activités de notre choix. En tant que citoyens, nous avons choisi en quelque sorte de former une communauté de destin avec ceux qui composent la nation. Et parfois, nos concitoyens sont en danger et l'épidémie le montre. Certains souffrent, certains sont atteints au point que leur santé et parfois même leur vie sont en danger. Et d'une certaine manière, il faut trouver le bon équilibre entre ces droits et ces libertés. Entre ma liberté dont je jouis et dont j'ai envie de jouir en tant qu'individu et puis les sacrifices temporaires que je dois faire à ces libertés pour protéger la santé des autres. Et c'est ce difficile équilibre que nous devons préserver. C'est une ligne de crête, en quelque sorte, qu'il faut suivre et placer le bon curseur, c'est-à-dire restreindre les libertés quand c'est nécessaire, mais seulement nécessaire, et dans la mesure où c'est nécessaire. En quelque sorte, il ne faut pas atteindre les libertés plus qu'il ne le faut pour atteindre le but d'intérêt général que l'on doit poursuivre, c'est-à-dire protéger la santé, protéger la vie de ceux qui aujourd'hui sont menacés.
Ça veut dire que le droit à la vie que vous venez de rappeler, Bruno Lasserre, ne s'impose pas sans limite face au respect des libertés individuelles.
Oui, c'est en démocratie, c'est cet équilibre qu'il faut préserver et c'est notre rôle. Un rôle difficile, je dois dire, à trois titres. Le premier, c'est que nous rendons nos décisions au nom du peuple français, nos décisions de justice. Et le peuple français est dans l'ensemble uni, solidaire, généreux, mais s'exprime aussi des impatiences, des frustrations, des passions aussi que nous devons écouter, qui s'adresse à nous. Donc, nous devons nous dire le droit de manière sereine, sans complaisance, mais rechercher aussi l'apaisement dans ces controverses. La crise bouscule en quelque sorte le rôle du politique, de l'expert et du juge. Dans une guerre sanitaire, la responsabilité du politique qui est investi pour cela, c'est de définir la stratégie. La responsabilité des experts, les médecins, les scientifiques, c'est de dire où est la vérité scientifique, ce que finalement la science commande de faire. Et le juge n'est ni l'un ni l'autre. Ça n'est pas lui à prendre les commandes, à mener la politique publique. Ça n'est pas lui qui peut dire ce que la science nous oblige à faire. Nous devons écouter, nous devons contrôler, nous devons trouver en quelque sorte la juste mesure quand nous répondons à des demandes qui s'adressent à nous, et ces demandes sont évidemment respectables parce que le droit d'accès au juge est un droit fondamental.
Alors, quelques exemples. Donc, au nom du droit à la vie, justement, et de la protection des populations, le syndicat des internes en médecine vous a réclamé un confinement total à la chinoise, si je puis dire, que vous avez refusé, mais vous avez quand même demandé au gouvernement de revoir certaines dérogations de déplacement et sa position sur le maintien de l'ouverture des marchés ouverts. C'est cela l'équilibre dont vous parliez tout à l'heure, Bruno Lasserre ?
Oui, mais c'est justement l'exemple de l'équilibre à rechercher dans une situation qui est elle-même très mouvante et parfois difficile à comprendre. Le confinement total, ce serait un abandon complet des libertés. Ça veut dire ne pouvoir sortir de chez soi qu'avec un certificat médical. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que cette restriction drastique des libertés pourrait heurter d'autres droits et libertés. Ça veut dire que, par exemple, les transports en commun seraient arrêtés. Et donc, comment les infirmiers, les soignants, le personnel hospitalier, parfois, pourraient se rendre à l'hôpital. Ça veut dire mettre fin à la possibilité de faire ses courses soi-même. Ça veut dire obliger à mettre en place un système de ravitaillement collectif que nous ne serions pas capables, dans l'immédiat, d'organiser. Et donc, on le voit, on est toujours tenté d'en faire plus, mais au risque, d'une certaine manière, de menacer ce que l'on veut réaliser. À l'inverse, nous avons dit dans le décret qu'a pris le Premier ministre qui impose ce confinement avec quelques exceptions, eh bien, il faut sans doute préciser certaines d'entre elles. Par exemple, le motif de santé est imprécis. Peut-être faut-il être plus précis sur les motifs de santé qui permettent une sortie de chez soi. L'activité sportive, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu'on peut, je dirais, courir pendant des kilomètres et très très loin de chez soi ? Sans doute faut-il être là aussi plus précis. Et nous avons enjoint aussi au gouvernement de réévaluer la nécessité de maintenir ouverts les marchés de plein air qui peuvent porter des risques. Et le Premier ministre a d'ailleurs tiré les conséquences de cette décision en modifiant dans les 48 heures qui suivaient son décret pour l'adapter aux recommandations que nous avions faites.
Vous dites, nous ne sommes pas des scientifiques, nous ne sommes pas des experts, Bruno Lasserre, mais hier, vous étiez saisi d'une demande d'élargissement de la prescription de chloroquine que vous avez rejetée. Dans vos motivations, vous dites ce produit n'a pas fait la preuve de son efficacité. Il y a bien des éléments d'expertise que vous prenez en compte dans votre arrêt.
Bien sûr, nous devons écouter les experts, lire aussi ce qui est écrit. Et là, il y a par exemple une étude chinoise, une étude qui a été menée à l'Institut hospitalier de Marseille. Il y a un essai clinique qui est en cours au niveau européen, l'essai Discovery, et naturellement nous devons comprendre, nous devons lire, nous devons nous imprégner de ce que dit la science. Et qu'est-ce que disent ces rapports ? Peut-être que l'efficacité thérapeutique est peut-être là demain, mais aujourd'hui il faut être relativement prudent sur les conclusions de ces études qui ont été menées sur un nombre de patients relativement limité. Nous devons aussi tenir compte de ce que les autorités publiques peuvent faire et ont déjà décidé. Et vous l'avez vu, mercredi, le Premier ministre a pris un décret qui autorise la prescription de l'hydroxychloroquine en milieu hospitalier pour les malades atteints du Covid-19 sous la responsabilité d'un médecin et avec un suivi collégial qui respecte les recommandations de la Haute Autorité de la Santé publique. Il a aussi, et c'est important, limité la prescription dans les pharmacies en médecine de ville, parce qu'aujourd'hui, cette molécule qui est commercialisée sous le nom de plaquenil par Sanofi sert à traiter des maladies qui sont par exemple le lupus, qui est une maladie auto-immune qui peut s'attaquer aux reins, aux articulations, à la peau. Et prescrire de manière générale l'hydroxychloroquine à tous ceux qui voudraient la prescrire, c'est risquer aussi le risque de pénurie pour ceux qui aujourd'hui en ont besoin pour traiter d'autres maladies. Donc, dans l'état actuel des choses, nous avons dit étendre de manière inconsidérée les usages thérapeutiques pour lesquels l'hydrochloroxine pourrait être prescrite pourrait menacer aussi d'autres personnes qui en ont besoin. C'est là encore la recherche de ces équilibres difficiles, fragiles, mais la noblesse de notre fonction, c'est de les rechercher dans l'intérêt de tous.
Merci Bruno Lasserre. On va continuer de suivre les travaux du Conseil d'État parce que je crois qu'il y a des audiences qui sont prévues, notamment pour étudier les réquisitions de logements pour femmes battues ou les demandes de nationalisation la semaine prochaine. Merci Bruno Lasserre d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Et merci de nous avoir suivis. Juste après les infos de 10h, le grand rendez-vous, Mickaël Darmon. Bonjour, votre invité.
Bonjour, c'est Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. Comment éviter que le confinement ne devienne un huis clos fatal pour la société ?
Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.